Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu libères nos cœurs afin que nous puissions entendre la parole que tu as pour nous ce matin, que nous puissions la recevoir et la laisser travailler en nous, la laisser cheminer. Et Seigneur, que nous soyons disponibles pour répondre à cette parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Cette semaine, alors que je travaillais cette prédication, et d'habitude, vous savez que je m'astreins à suivre les textes du jour pour éviter de choisir mes textes et de décider ce que je veux dire ou ne pas dire. Et cette semaine, alors que je cherchais à écouter ce que l'Esprit voulait me dire, j'ai été amenée à reconsidérer les textes qui étaient proposés pour ce dimanche et aussi pour les suivants, et a opté pour travailler une série de prédications dans l'Évangile selon Jean. Donc si vous avez le lectionnaire, vous verrez que ça n'est pas du tout les textes bibliques prévus. Une série de textes donc que j'ai choisi qui parlent du témoignage et de la persécution, mais aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. Et alors que j'attendais encore une confirmation pour m'engager dans cette voie, j'ai pris le temps d'écouter les deux prédications qui ont été données en mon absence, par nos deux invités, le pasteur Charles Nicolas et le pasteur Paul Emélande. Et j'ai été étonnée, premièrement, de constater que le pasteur Charles Nicolas a prêché sur le texte qui précède celui sur lequel je vais prêcher, dans l'Évangile de Jean, et qui parle longuement de l'Esprit-Saint. Ensuite, j'ai été surprise d'entendre à quel point les thèmes de ces deux prédications concordaient, alors même que les textes choisis étaient tout à fait différents. On a un texte dans l'Évangile de Jean et un psaume, enfin plusieurs psaumes. Il a été fait mention notamment de consolation et de découragement. Donc ça va bien ensemble quand même. Mais aussi de la victoire dans la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et enfin, la façon dont le terrain a été préparé, me semble-t-il, pour le thème du témoignage et de la persécution, m'a conduite à m'émerveiller devant cette œuvre précise et efficace du Saint-Esprit qui veut instruire et conduire le peuple de Dieu, lui qui est le paraclet, notre consolateur, notre défenseur et notre conseiller. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter sur un point qui a été développé tour à tour par Charles Nicolas et Paul Emélande dans leurs prédications respectives. C'est le thème des deuils quotidiens. Et puisque nous allons aborder le témoignage et la persécution, il me paraît approprié d'en dire un mot également. Parce que non seulement nous avons à vivre, comme tout un chacun sur cette terre, ces fameux deuils quotidiens dont il a été fait mention les semaines passées, comme par exemple la fuite du temps. On n'a plus 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. La fuite de la jeunesse, de la santé, la perte d'un travail ou d'une situation, la séparation avec un conjoint ou un ami. Mais plus encore, nous avons à vivre en tant que chrétiens, et là c'est spécifique, des deuils supplémentaires, liés au fait justement que nous nous réclamons de Christ. Et si nous voulons être disciples du Christ, c'est Jésus lui-même qui le dit, nous devons renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et le suivre. Par exemple, Matthieu 16, verset 24, on trouve ces mots. Alors, sans rentrer plus en détail dans cette vérité, il est assez évident qu'il est question là de deuil, de choses, de situations ou de relations à abandonner. Et c'est aussi ce dont il est question dans les textes qui vont nous enseigner donc ces trois prochains dimanches, Dieu voulant. Et plus précisément, une des choses auxquelles ils nous font renoncer, que je développerai davantage aujourd'hui, c'est notre désir de reconnaissance. Notre envie d'être aimé de tous et d'être accepté. Alors je vous invite à lire avec moi l'Évangile de Jean au chapitre 15, les versets 18 à 27. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie, ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Ta parole est la vérité, Seigneur, sanctifie-nous par cette vérité. Alors, on peut trouver ce texte abrupt à la première lecture. Hein. Je pense que c'est quand même l'effet que ça fait. Se demander comment on en est arrivé là. Mais si on considère l'ensemble du chapitre, vous allez voir que c'est tout à fait logique et pertinent. Le chapitre 15 de l'évangile de Jean nous décrit en fait différents cercles relationnels et nous montre les liens de cause à effet qui existent entre ces cercles. J'ai songé à vous faire un schéma, mais je ne suis pas très douée en dessin, alors. Les versets 1 à 8 du chapitre 15, qui sont bien connus, nous présentent Jésus comme le vrai cep et le Père comme le vigneron. Hein. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Chacun de nous est un sarment, appelé à demeurer attaché au cep afin de porter du fruit. Il s'agit donc d'une relation plutôt individuelle, bien que valable pour chacun et chacune. C'est, on pourrait dire, moi et Jésus, avec l'objectif de porter du fruit à la gloire de Dieu le Père. Et derrière cela, il y a l'idée de transformation de notre ancienne nature, puisque la sève, en fait, qui provient de Dieu par notre attachement à Christ, va faire de nous de nouvelles créatures. Elle va nous transformer pour nous rendre semblables au Christ et donc être capables de produire du fruit qui le glorifie. Alors je le redis parce qu'en fait, c'est important à mon avis de garder ça en tête pour comprendre ce qui arrive dans le texte que nous avons lu. Le deuxième cercle, dans les versets 9 à 17, parle d'une relation communautaire. Il est question de Jésus et ses enfants qu'il appelle ses amis. Alors nous pourrions dire les chrétiens, mais ce qui importe ici, ça n'est pas le nom ou le titre, mais plutôt les caractéristiques. C'est-à-dire que ceux qui se trouvent dans ce cercle sont ceux qui sont habités par l'amour et la joie du Christ. Ils se savent aimés de Dieu et ils montrent leur amour pour Dieu par leur obéissance à ses commandements. Et notamment, puisque c'est le sujet de ce petit passage-là, le commandement de l'amour mutuel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, verset 12. Alors évidemment, il est question là aussi de fruits produits, hein, et il est aussi question de transformation, puisque le texte le dit bien, nous passons de serviteurs à amis, quand même. C'est donc, pour faire simple, moi et les chrétiens, le cercle de l'amour. Donc moi et Jésus, le cercle du fruit, moi et les chrétiens, le cercle de l'amour. Et donc tout naturellement, nous arrivons au troisième cercle, décrit dans notre texte ce matin, que l'on pourrait résumer sous le titre « Moi et le monde, le cercle de la haine ». Parce que nous sommes chacun et chacune attachés au Christ, voilà la logique en fait, parce que nous sommes chacun et chacune attachés au Christ, parce qu'il nous transforme à son image, parce que nous commençons à produire du fruit, tout ça c'est le premier cercle, alors nous nous reconnaissons mutuellement comme faisant partie de cette famille de Dieu et nous commençons à mettre en pratique, tant bien que mal, je vous l'avoue, hein, le commandement d'amour mutuel prescrit par le Seigneur. C'est le deuxième cercle. Et en fait, le fruit individuel, mais aussi collectif que cela nous donne de produire, nous met à découvert, on pourrait dire, aux yeux du monde. Tout à coup, on voit qu'on n'est pas pareil. Le monde voit, comme nous appartenons à Christ et à sa famille, que nous ne lui appartenons pas à lui. Et voilà pourquoi il nous déteste. C'est le troisième cercle. Ce qui, en fait, est quand même assez cohérent. Hein. C'est dur, mais c'est cohérent. Le monde nous déteste parce que nous ne sommes pas à lui, parce que nous ne provenons pas de lui. Nous ne parlons pas son langage. Nous ne possédons pas ses codes. Nous sommes des étrangers. Et en plus, nous servons, sans le vouloir hein, parfois, de révélateurs au péché du monde. Parce que nous sommes différents, on leur montre en fait qu'il y a un problème. Ainsi, on pourrait dire, plus nous produisons du fruit pour Christ, plus nous serons détestés par le monde. Alors, il faut dire que c'est une bonne nouvelle. Ça paraît pas dit comme ça, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que ça montre que le travail de l'esprit en nous est efficace et progresse. On pourrait dire que ce qui serait moins une bonne nouvelle, c'est quand nous ne rencontrons aucune opposition et aucune difficulté. Qu'on se comprenne bien, ça ne signifie pas que nous devons rechercher à tout prix les difficultés et la haine, hein, c'est pas ça. Mais plutôt de comprendre à quel point il serait saugrenu, on pourrait dire, que le monde nous aime. Ça serait complètement illogique. Or, mes amis, le problème, c'est que souvent, nous voudrions que le monde nous aime. Nous voudrions pouvoir nous fondre dans la masse. Nous voudrions, certes, appartenir à Christ, mais aussi en même temps au monde. Ce qui, en fait, est impossible. Ce sont deux mondes antinomiques que tout oppose. Et pourtant, nous vivons comme si c'était faisable. Nous faisons des compromissions, nous tentons de passer inaperçus, nous trouvons de bonnes excuses pour ne pas être vus, ne pas être sus, ne pas parler de l'Évangile. Nous allons même parfois jusqu'à penser et dire qu'en nous fondant dans la masse, en adoptant les comportements du monde, eh bien, nous allons être les mieux placés pour leur parler du Seigneur. C'est faux, hein. C'est faux et c'est un mensonge énorme. C'est l'inverse de ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous adoptons le comportement du monde, alors notre témoignage s'amoindrit et finit même par s'effacer. C'est l'idée de la lumière hein, sur laquelle on met un tissu pour la cacher. Si nous devenons du monde, alors nous ne portons plus de fruits. Et en fait, il suffit de relire le début du chapitre hein, pour voir ce qui arrive aux sarments qui ne portent pas de fruits. Et en fait, il faut comprendre que nous n'aidons pas le monde en nous comportant ainsi. Nous ne faisons pas progresser le règne de Dieu et nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Donc en fait, on gagne sur aucun tableau, quoi. C'est donc un mensonge qu'il nous faut voir pour nous-mêmes, hein, dénoncer et duquel nous devons nous détourner. Et c'est vraiment une difficulté parce que nous voudrions être aimés, être acceptés, parce que nous détestons les conflits de manière générale. À part certains, parfois on en trouve qui aiment bien ça, mais c'est quand même assez rare. Hein. On n'aime pas trop, quoi. Nous devons nous souvenir que nous sommes aimés et ne pas chercher l'amour au mauvais endroit. Parce que nous sommes réellement aimés. Nous sommes aimés profondément, parfaitement, inconditionnellement et éternellement en Christ. Et nous sommes appelés à vivre et à développer cet amour-là au sein de la famille de Christ. Ce qui déjà n'est pas une mince affaire. Alors ça ne veut pas dire que nous devons haïr le monde nous-mêmes. Hein. Mais en tout cas, ça signifie que nous devons renoncer à notre désir d'être aimé par lui. C'est ça, en fait. Nous n'avons pas besoin de cet amour-là. Parce que le seul véritable amour se trouve en Dieu et il a été manifesté en son Fils Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour mourir à notre place sur la croix et pour nous réconcilier avec Dieu par sa mort et sa résurrection. En Christ, Dieu nous a aimés, en Christ, Dieu nous a sauvés, et en Christ, Dieu nous appelle à vivre pour sa gloire. Alors ça nous amène à une question importante à se poser, me semble-t-il, c'est pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés ? Peut-être que tout de suite on a envie de répondre parce qu'il nous aime, parce que cela correspond à son plan, etc. Ok, mais pourquoi ? Pour faire quoi ? Eh bien la réponse, c'est pour que nous manifestions sa gloire, la beauté de sa grâce, la profondeur de son amour. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons ses témoins. Acte 1, verset 8, par exemple, ou Matthieu 28, la fin de l'Évangile. On le dit souvent, nous sommes sauvés pour servir. Dieu nous confie des dons pour accomplir ce service. Et il existe toutes sortes de services, comme aussi toutes sortes de dons. Mais avant de parler de cela, ou au-delà de cela, Dieu nous appelle à être ses témoins. Chacun, chacune, avec ce que nous sommes. Chacun en fonction de qui nous sommes. C'est-à-dire que, si je dis ça, c'est parce qu'on ne peut pas dire « oui, ben moi, je n'ai pas le don de l'évangélisation, donc je ne suis pas appelé à être un témoin ». Ben non, en fait. C'est complètement indépendant, là. Dieu nous appelle à parler de lui, à raconter ses œuvres et ses prodiges, à proclamer ses merveilles. Il nous appelle à annoncer sa parole, à publier le salut, à exposer sa grâce et son amour. Et il nous a créés tellement différents que nous avons mille manières d'accomplir cette mission. Nous pouvons parler à des foules, hein, y en a qui sont doués pour ça, parler dans le secret d'une relation individuelle, parler dans nos familles, et combien c'est important. Nous pouvons aussi vivre de manière à être interrogés si nous ne savons pas comment aborder le sujet. Nous pouvons aider, soigner, nourrir et dire que nous le faisons de la part de Christ, qui nous a tout donné. Nous pouvons chanter, écrire des livres, peindre, dessiner, jouer de la musique, créer, etc. Mille manières d'accomplir cette mission. Reste le lieu d'action. Et il est évident que cette mission-là, ça n'est pas au sein de la famille de Dieu que nous sommes appelés à l'accomplir, mais bien au sein du monde, ce monde qui nous déteste. Voilà le problème de ce texte. Et Jésus le dit, hein, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est pas pour faire joli qu'il dit ça. Au sein de la famille de Dieu, le Seigneur nous ressource, nous équipe, nous fait grandir, il nous appelle, il nous encourage, il nous réconforte, il nous console. Ça veut dire que nous devons nous-mêmes faire toutes ces choses pour notre frère et notre sœur à côté de nous. Mais pour témoigner, il faut sortir du cercle de l'amour et aller dans le cercle de la haine. Et pour cela, il faut être rempli de l'amour de Dieu pour soi, mais aussi de l'amour pour son règne et pour sa parole. Et encore, il faut être rempli d'amour pour ceux qui se perdent. Et c'est là que parfois, c'est difficile. Il faut être convaincu que le désir de Dieu est de sauver et prendre conscience d'une chose tout à fait extraordinaire et incroyable, c'est que Dieu veut se servir de nous pour cela. Par rapport à cette question d'aimer ceux qui se perdent, le mois dernier, le pasteur Cabot a prêché sur le livre du prophète Jonas. J'y reviens parce que Jonas, justement, manquait d'amour pour les perdus. Il ne voulait pas que Dieu fasse preuve de compassion à l'égard des Ninivites. Il ne voulait pas qu'ils soient sauvés. D'ailleurs, il s'est fâché en voyant que Dieu revenait sur son projet de jugement devant la repentance du peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là, hein. C'est quand même assez, assez intéressant. Et si nous voulons être honnêtes, je crois que parfois nous ressemblons un peu trop à Jonas. Nous sommes contents de connaître Dieu, reconnaissants pour le salut, mais nous n'avons aucun intérêt, je le dis comme ça, c'est terrible, hein. Aucun intérêt, aucune envie de le partager avec d'autres. Un peu comme des enfants jaloux, quoi. C'est mon truc à moi, ça. C'est mon cadeau à moi. Et ça met en lumière l'état de notre cœur et notre besoin d'être encore transformé par le Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre que nous non plus ne méritons pas le salut, pas plus que celui à qui nous ne voulons pas qu'il soit donné, et que nul ne le mérite. Nous avons besoin de prendre conscience que notre Dieu est un Dieu compatissant, qui voudrait que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons besoin de comprendre la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et de connaître réellement cet amour. En fait, nous avons besoin d'apprendre à aimer comme Dieu aime, parce que Dieu entend se servir de nous. Et je le redis, c'est une grâce incroyable, comme c'est aussi une grande responsabilité. Paul le formule ainsi dans l'Épître aux Romains, hein. Comment entendront-ils parler de lui si personne ne leur en parle ? Il y a tout un développement là. Et ce texte s'adresse à nous, mes amis, il est de notre responsabilité de parler du Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas, parce que leur salut en dépend. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas indispensables dans cette tâche, hein. On va tout de suite redescendre. Dieu pourrait tout aussi bien faire sans nous. Mais il se trouve que Dieu veut faire avec nous. Ce n'est pas une option. Je le dis parce qu'en fait, souvent, on considère ça comme une option. Si on se sent de le faire, on va le faire. Si on se sent appelé à témoigner, on va aller témoigner. Comme si c'était un peu... à la tête du client, quoi. Et en fait, ça n'est pas une option. Ça ne dépend pas de notre caractère, ni de nos dons, ni de notre capacité à aller vers l'autre. Et je le dis avec toute ma propre difficulté à le faire. C'est un appel commun que nous partageons et auquel nous ne devons pas chercher à échapper. Dieu fait de nous ses témoins. Il nous a choisis pour annoncer ses merveilles, son salut, sa parole, sa grâce, son amour, sa paix, etc. Et il ne nous envoie pas comme ça sans aucune aide. Il nous équipe. De quelle manière Dieu nous équipe-t-il ? Eh bien, il nous invite premièrement à demeurer en lui et il demeure en nous. Ça n'est pas un petit équipement quand même. Deuxième chose, il nous donne des frères et des sœurs. Il nous prévient de ce qui arrive, de comment on va être reçu. Et il nous donne son esprit. Dieu nous fait co-ouvriers avec l'Esprit-Saint. Je ne sais pas si on le réalise bien, ça, quand même. On est co-ouvriers avec l'Esprit-Saint. C'est à la fois mystérieux et prodigieux. Le Père et le Fils envoient l'Esprit, qui est le défenseur, le consolateur, le conseiller, comme cela a été exposé il y a 2 semaines. Cet Esprit est l'Esprit de vérité, ce qui veut dire que tout ce qu'il dit est vrai, qu'il n'y a pas de mensonge ni d'erreur en lui. Et l'Esprit rend témoignage dans nos cœurs, rend témoignage de Jésus. Dans nos cœurs, l'Esprit nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Il nous rappelle sa parole, il nous raconte son œuvre, il nous fait nous souvenir. Il le fait pour notre propre bien, mais aussi pour que nous soyons rendus capables, nous aussi, de témoigner aux autres. Pour que nous puissions avoir à l'esprit, sans mauvais jeu de mots, le verset qui convient au bon moment, par exemple. Pour que nous soyons capables de nous taire aussi, quand il est inutile de parler. Pour que nous soyons attentifs à ceux qui nous entourent et à leur aptitude à écouter et à recevoir l'Évangile. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, nous devenons ces témoins dont le Seigneur a besoin dans ce monde. Et s'il le faut, l'Esprit peut ajouter des signes, des miracles, des prodiges dans la vie de ceux qui nous écoutent et qui croient au nom du Fils de Dieu. Et parfois, nous ne le saurons même pas. Voilà cette œuvre à laquelle nous sommes appelés. Alors oui, le monde nous déteste parce que Dieu nous aime. Mais Dieu nous envoie justement dans ce monde-là pour y témoigner de son amour. C'est ça notre champ de mission. Et ça commence souvent juste à côté de nous. Pour entrer dans cette mission, nous devons accepter de renoncer à notre besoin d'être acceptés, reconnus, valorisés de tous. Parce que l'amour de Dieu nous suffit. Et nous devons nous appuyer sur ce que Dieu met à notre disposition. Et je le répète, il y a trois choses selon moi. La première, c'est que Dieu ne nous laisse pas ignorants. Il nous donne des clés pour comprendre le temps dans lequel nous sommes et ce qui nous arrive. Il nous donne de saisir pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi le rejet, pourquoi le sentiment de solitude, pourquoi la persécution. Pour l'instant, pas trop chez nous, mais ailleurs tellement. La deuxième chose, c'est que Dieu ne nous laisse pas inutiles et errants. Il nous confie une mission et des responsabilités. Il fait de nous ses témoins, ses porte-paroles, ses agents de réconciliation. La troisième chose, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne de demeurer en lui. Il nous donne sa parole. Il nous donne des frères et des sœurs qui partagent les mêmes responsabilités, le même appel, une famille en son nom. Et enfin, il nous donne de travailler en partenariat avec son esprit. Que gloire lui soit rendue. Amen.